VOA Afrique, les infos à Washington.
John Linden à la présentation. Bonjour à tous. Il est 15h à Washington DC, 19h en temps universel. Bienvenue dans ce nouveau bulletin d'information sur VOA Afrique. 10 soldats du gouvernement du Yémen soutenus par la coalition militaire de l'Arabie Saoudite ont été tués dimanche dans une attaque des rebelles houthis après plus d'un an de relative accalmie dans cette guerre qui a ravagé le pays, ont indiqué des sources militaires. Le récent rapprochement entre l'Arabie Saoudite qui appuie le gouvernement yéménite et l'Iran proche des rebelles a suscité des espoirs d'apaisement, mais les négociations de paix restent dans l'impasse dans ce pays de la péninsule arabique plongé dans l'une des pires crises humanitaires au monde. Trois membres de la Chambre des représentants américains ont effectué une rare visite dimanche dans une zone rebelle du nord de la Syrie, contrôlée par des factions pro-turques. Joe Wilson, Victoria Spath et Dean Phillips se sont rendus dans un hôpital de la ville de Azaz, dans la province d'Alep. Le but de la visite était d'observer la situation dans les zones libérées, a affirmé le responsable des relations publiques au sein du gouvernement intérimaire soutenu par la Turquie, Yasser El-Hadji. La Russie a affirmé dimanche avoir fait décoller un de ses avions de chasse pour empêcher un drone américain de franchir sa frontière en mer Noire. Lorsque l'avion de combat russe s'est approché, le drone de reconnaissance étranger a fait demi-tour, s'écartant de la frontière de la Fédération de Russie, a affirmé le ministère russe de la Défense. L'Ukraine a annoncé dimanche qu'un deuxième cargo bloqué dans le port d'Odessa était reparti via un couloir temporaire mis en place après l'échec de l'accord céréalier de la mer Noire. Le fraquier Primus, battant pavillon libérien et appartenant à un opérateur singapourien, a quitté le port d'Odessa et emprunte le couloir temporaire établi pour les navires civils, a indiqué le ministère ukrainien de la reconstruction.
FM 102, c'est VOA Afrique à Dakar au Sénégal, 24h sur 24.
Le général Abdel Fattah al-Burhan, chef de l'armée en guerre depuis plus de 4 mois contre les paramilitaires, est arrivé dimanche à Port-Soudan, l'unique ville du Soudan à disposer d'un port et d'un aéroport en fonctionnement, selon des déclarations officielles. Depuis le début de la guerre, le 15 avril, le général Burhan, chef de facto de l'État depuis son putsch en 2021, était retranché au quartier général de l'armée à Khartoum, régulièrement attaqué par les forces de soutien rapide du général Mohamed Hamdan. Le président zimbabwéen Emmerson Mnangagwa s'est félicité dimanche à rester à la tête d'une démocratie mature et d'une nation indépendante et souveraine au lendemain de l'annonce de sa réélection à l'issue d'un scrutin contesté et aux nombreux dysfonctionnements. Nous avons démontré que nous sommes une démocratie mature, a affirmé le chef de l'État de 80 ans, reconduit pour un second mandat dans un discours prononcé au palais présidentiel dans la capitale Harare. Plus tôt dans la semaine, les observateurs de l'Union européenne, de la SADC et des pays du Commonwealth avaient unanimement mis en doute la régularité du scrutin. Et puis l'Égypte a annoncé dimanche avoir repris les négociations avec l'Éthiopie et le Soudan autour du méga barrage éthiopien sur le Nil. Jugé vital par Addis Abeba, le grand barrage de la Renaissance éthiopienne qui a coûté environ 3,5 milliards d'euros est au cœur d'un conflit régional depuis que l'Éthiopie a entamé les travaux en 2011, l'Égypte et le Soudan craignant qu'ils ne réduisent leur part d'eau au Nil. Ces discussions qui ont lieu au Caire visent à parvenir à un accord tenant compte des intérêts et des préoccupations des trois pays, précise le ministère de l'eau et de l'irrigation égyptien. Et c'est la fin de ce bulletin d'information présenté par John Linden. Merci d'avoir suivi. Je reviens dans moins de 55 minutes pour d'autres infos sur VOA Afrique. D'ici là, restez à l'écoute de nos programmes.
Soyez au cœur de l'info sur VOA.
Et tout de suite, un programme en rediffusion sur VOA Afrique. Foi et tradition.
Vérité et doctrine.
Le dialogue des religions.
Sur la voie de l'Amérique.
Bonsoir et bienvenue dans le dialogue des religions. Eric Manelakiza avec vous au micro. Lionel Lunanela Gaïba assure la mise en onde. Ce soir, nous abordons le rôle crucial des chefs religieux dans le conflit au Niger. De Niamey à Lagos, en passant par le Togo, les leaders religieux musulmans et catholiques interviennent pour apaiser les tensions et obtenir la levée des sanctions imposées par la CEDEAO. Avec nos invités, vous allez comprendre l'impact de leur implication et les perspectives qu'ils offrent pour un avenir plus pacifique au Niger. Le professeur Jean-Claude Jereke, docteur en histoire contemporaine et en sociologie des religions, est avec nous. Bonsoir, professeur Jereke.
Bonsoir Eric et bonsoir à nos auditeurs.
Ahmedou Ould Abdallah, directeur du Centre stratégique pour la sécurité du Sahel-Sahara, ancien fonctionnaire de l'ONU, est avec nous. Bonsoir Monsieur Ould Abdallah.
Bonsoir. Et à vous deux et à mon collègue qui va parler.
Merci d'être avec nous. Professeur Jereke, je vais commencer avec vous. Les religieux ne sortent-ils pas de leur rôle en intervenant dans des conditions politiques? En quoi l'appel des évêques de l'Église catholique du Togo pour la levée des sanctions imposées au Niger est-il en lien avec les principes religieux et éthiques de leur foi?
Les religieux, en intervenant dans les questions politiques comme celle-ci, c'est-à-dire le refus de la guerre contre le Niger, ils ne sortent pas de leur rôle. Parce que s'ils s'occupent prioritairement des âmes, il faut savoir que l'âme habite dans un corps. Et donc les religieux ne peuvent pas être indifférents lorsque les corps souffrent. Lorsque les corps sont bombardés, lorsque les gens sont tués, il ne peut pas être indifférent. Et pour les catholiques, en particulier, je crois qu'il y a le Concile Vatican II qui a eu lieu de 1962 à 1965, qui dit dans la constitution pastorale Gaudium et Spes, c'est-à-dire joie et espérance, que les chrétiens, les fidèles du Christ, doivent partager les joies et les peines, les tristesses et les angoisses et les espoirs des hommes et des femmes de ce temps. Je trouve que c'est un texte vraiment remarquable, très beau, hein, pour justement souligner cette solidarité des hommes de Dieu, des religieux, avec les hommes. Donc ce n'est pas seulement une affaire d'âme, mais c'est aussi, je veux dire, le corps, il faut s'occuper du corps, parce que le Christ, hein, pour nous les chrétiens, le Christ ne s'est pas contenté de prêcher le royaume de Dieu. Il a donné à manger à des gens qui étaient affamés. Il a guéri des gens qui étaient aveugles, sourds-muets, lépreux, boiteux, etc., etc. Donc voilà un peu ce que je voulais dire.
Ahmedou Abdallah, votre réaction est une question aussi pour vous. Comment l'accueil de la délégation des chefs religieux nigériens musulmans par le régime militaire de Niamey pourra-t-il influencer la situation politique au Niger dans le contexte actuel?
Merci bien. La religion, en fait, les religions, et dans cette partie que je connais bien, cette partie d'Afrique, il y a plusieurs religions, les religions traditionnelles qui de plus en plus cèdent la place à l'islam, qui est bien plus ancien mais qui s'étend de plus en plus au sud, à la religion chrétienne, en particulier catholique, qui venait avec les missionnaires et qui est toujours importante, et les nouveaux mouvements, les évangélistes venus surtout du sud, c'est-à-dire d'Amérique et d'Amérique latine. Et donc il y a trois religions au moins, si on n'ajoute pas la religion traditionnelle. De mon expérience comme représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies, comme secrétaire général adjoint des Nations Unies, que ce soit en Somalie, un pays entièrement musulman, et qui parlent la même langue, ou en Côte d'Ivoire pendant la crise de 2002, ou dans d'autres régions du continent, et aussi en Afghanistan, la religion prend la paix. Le problème est avec les hommes. Le problème, c'est un problème des hommes, et c'est pour ça qu'il faut d'abord convaincre les belligérants. Et la religion, quelle qu'elle soit, les religions sont pour la paix. Le problème, c'est nous, c'est les hommes. Et c'est pourquoi j'espère que cette mission pourra contacter, toucher, convaincre les gens, les personnes, en particulier les hommes, pas les femmes, qui sont derrière cette violence, comme partout ailleurs. Merci.
Professeur Jereke, dans quelle mesure les leaders religieux peuvent-ils jouer un rôle constructif en tant qu'acteurs de la résolution de conflits politiques sans compromettre leur neutralité religieuse?
Je dirais que la seule arme dont disposent les hommes religieux, c'est leur parole. C'est la parole. N'oublions pas que dans l'évangile de Saint Jean, je crois que c'est le premier chapitre, que Saint Jean dit au commencement était le Verbe, c'est-à-dire la parole. Et je pense que la parole a un pouvoir thérapeutique. Je crois qu'on n'a pas suffisamment conscience de cela, mais la parole a cette puissance-là de guérir. Et donc, les conflits, mais ce sont des blessures, ce sont des maladies. Et les religieux ne peuvent offrir que ce qu'ils ont, c'est-à-dire la parole. Hein, la parole, c'est-à-dire en parlant aux uns et aux autres, aux belligérants, pour justement guérir la cité, n'est-ce pas, des maux qui la minent. Et on a vu cela en Afrique, par exemple, au début des années 90, avec les conférences nationales souveraines, hein, que ce soit au Bénin, au Togo, au Gabon, dans les deux Congos. Ces conférences ont été présidées par des religieux, par des évêques. Vous voyez, et ça fait du bien, ça fait du bien au peuple parce que les politiciens n'arrivaient pas à s'asseoir autour d'une table. Hein, parce que je crois qu'ils avaient perdu confiance les uns dans les autres, ils n'avaient plus confiance les uns dans les autres. Alors il fallait des gens neutres, hein, des gens qui pouvaient justement encore avoir une parole, qui pouvaient parler à tout le monde. Ouais, donc je pense que c'est cela. Les religieux, hein, qu'ils soient musulmans, chrétiens ou autres, n'ont que leur parole pour participer justement à la résolution des conflits dans un pays ou dans une partie du continent, comme on le voit aujourd'hui au Niger.
Mais y a-t-il des risques potentiels associés à l'implication de ces leaders religieux dans de telles questions politiques, Jean-Claude?
Bon, le risque que je vois, c'est que... par exemple, après la résolution d'un conflit, on demande à tel ou tel religieux de devenir président de la République. Je pense qu'il y a ce risque-là. Et je crois que c'est arrivé, hein, parce que dans certains pays comme les deux Congos d'ailleurs, Congo-Brazzaville, Congo-Kinshasa, Monseigneur Ernest Combo, Monseigneur Monsengo, c'est pratiquement eux qui dirigeaient le pays, hein, jusqu'aux prochaines élections. Et je crois que ce n'est pas ça le rôle d'un homme de Dieu, d'un religieux. Vous voyez ? Donc, il y a ce risque-là. Il y a ce risque-là. Donc, je pense que quand les hommes religieux ont fait leur travail, c'est-à-dire mettre d'accord les hommes politiques, hein, les amener, n'est-ce pas, à se mettre d'accord sur un minimum, je pense qu'ils devraient partir.
Monsieur Abdallah, dans quelle mesure... Les facteurs religieux jouent-ils un rôle dans la compréhension de ces événements et des appels à la résolution des tensions, notamment concernant le Niger?
La religion et toutes les religions qu'on connaît, soit parce qu'on les pratique, soit parce qu'on les a étudiées, sont pour la paix. Et il n'y a pas de doute là-dessus. Mais là où il y a le plus de violence, que ce soit les guerres en Europe au cours des siècles, que ce soit en particulier la Première et la Deuxième Guerre mondiale, c'était entre des gens qui sont de culture chrétienne. Et c'est la même chose dans les pays musulmans. Et je ne connais pas très bien l'Inde, mais il y a beaucoup de violence, pas seulement entre hindous et musulmans, mais à l'intérieur même des groupes hindous. Donc moi, je pense que la paix, c'est surtout les dirigeants de l'élite politique. Les peuples sont de plus en plus informés, les peuples sont de plus en plus ouverts, ils ont tous accès à des médias comme le vôtre, sans que ça leur coûte rien, par un réseau social, au lieu d'avoir les radios qui coûtaient, quand j'étais plus jeune, des salaires. Donc, c'est le leadership politique qui doit pousser à la paix, qui doit, par l'exemple, par l'intégrité, comme tout le monde est informé, lutter contre la corruption, contre le régionalisme ou l'ethnisme qui aide la paix. La religion amène la pommade qui permet de cicatriser les plaies, de cicatriser les blessures, d'adoucir le cœur. Je ne veux pas dire que la religion ne peut pas faire la paix. Au contraire, les plus grands médiateurs jusqu'à la fin de la guerre froide étaient des hommes d'église, par exemple. Parce que la plupart des guerres étaient en Europe. Mais aujourd'hui, les guerres civiles ont une autre dimension. Et c'est ça qui est très important à connaître. Et il y a la religion. Regardez le Mali, par exemple. Beaucoup d'imams se sont investis dans la crise. La même chose au Burkina Faso, pour être plus précis. Regardez le Soudan. Ce qui s'est passé entre le nord et le sud, disons des religions différentes. Mais regardez le Soudan aujourd'hui, tous musulmans pratiquement au nord. Pourquoi il y a les guerres? Pourquoi il y a la guerre au sud-soudan entre les deux clans qui sont les deux chrétiens? Donc, à mon avis, la religion est excellente parce qu'elle prend la paix, quelle qu'elle soit, mais c'est le leadership politique qui doit être intègre, rigoureux et savoir qu'il y a les réseaux sociaux, les radios accessibles à tout le monde et de gérer au mieux la cohabitation entre les populations, qu'elles soient de même religion ou non, mais dans le même territoire.
Vous êtes à l'écoute d'un programme en rediffusion sur VOA Afrique.
Jean-Claude, tout à l'heure, vous avez mentionné quelques risques potentiels. Comment les leaders religieux peuvent naviguer dans ces situations tout en maintenant leur crédibilité religieuse, c'est-à-dire équilibrer leur rôle spirituel avec cet engagement de gestion de crise politique?
Je pense que ça ne devrait pas être compliqué dans la mesure où, du moins pour les catholiques, le droit canon interdit formellement aux hommes religieux, prêtres et évêques, de diriger la cité, d'être ministre, député, maire, président de la République. Donc je crois que ça, ce sont des garde-fous. Voilà, des garde-fous. Et donc, le religieux, par exemple, qui est sollicité pour jouer les médiateurs, je pense que il doit comprendre que son rôle est justement d'aider les acteurs politiques à trouver un consensus. Je crois qu'il doit comprendre que son rôle se limite à cela. Hein, et que quand il a fini ça, eh bien, il retourne dans son diocèse ou dans sa paroisse. Donc, je crois que pour les catholiques, c'est clair. Hein, les catholiques ont le droit canon qui, justement, leur permet de se limiter dans ce service à la nation.
Et concrètement, quelles sont les lignes directrices éthiques qu'ils devraient suivre lorsqu'ils décident d'intervenir dans de telles questions politiques ou diplomatiques, Jean-Claude?
Mais quand les religions interviennent, comme le disait tout à l'heure mon collègue, c'est la paix. C'est la paix qu'ils recherchent. Hein, parce que bien souvent, il y a des conflits et parfois des violences, il y a des tueries. Vous voyez, donc, les religieux ne s'engagent pas dans ce genre de choses, pour le plaisir, n'est-ce pas, de le faire, ou bien pour gagner ceci ou cela. Je crois que ce qui les motive, c'est la recherche de la paix, que la paix revienne dans la cité. Ouais, donc, ça, je pense que c'est un motif suffisamment important pour que les religieux puissent jouer ce rôle de médiateur dans nos pays.
Ahmedou Dabdallah, vous avez donné des exemples historiques où la religion a eu un impact significatif. Comment la diplomatie religieuse peut-elle contribuer à la résolution des crises politiques? Vous avez souligné la paix tout à l'heure, mais on sait, on connaît des situations où les religions ont été aussi, ont contribué à l'aggravation des crises, notamment en Rwanda, l'Église catholique notamment. Oui.
C'est de très bons exemples. Le problème, ce ne sont pas les saintes écritures, quelle que soit la religion. Qu'elle soit catholique ou qu'elle soit musulmane, les écritures saintes prennent la paix, la cohabitation. Le problème, c'est nous, c'est les hommes. Et tout le monde sait le rôle de l'Église, ou qu'on attribue en tout cas à l'Église pour le Rwanda. Tout le monde sait, enfin, on peut citer des tas de situations, et surtout pour venir à la région qui nous concerne, c'est-à-dire le Niger, il est très bon que les chefs religieux, quelles que soient leurs tendances, à l'intérieur d'une église, qu'ils soient catholiques ou évangélistes, en venant du Nigeria ou musulman, venant du Niger et du Nigeria, dans les deux pays, les religions sont là. Ce qu'il faut, c'est que les leaders politiques et leur entourage en particulier assument leurs responsabilités et sachent que la religion, c'est aussi la culture qui prend la paix et la cohabitation. Et j'ai vécu cela en Côte d'Ivoire. Pendant les malheureux génocides au Rwanda, j'étais représentant des Nations Unies au Burundi. L'Église catholique a été exemplaire, bien que les deux principales personnalités de cette Église soient d'ethnies différentes.
Vous parlez du cas du Burundi.
Je parle du Burundi. Tout à fait, j'étais représentant spécial du Burundi.
Et là, vous parlez de
génocide.
Vous parlez de Monseigneur Simon Hamwana et Monseigneur l'évêque de Burundi,
Bernard. Avec les deux, exactement, je suis content que me rappelle les deux noms que je connaissais. J'étais en permanence avec eux et ils étaient responsables. Et ils ont refusé la manipulation de l'Église. Dans ce cas de Rwanda, c'était absolument l'inverse. Et les deux au Burundi ont joué le rôle de chrétiens pour la paix, la cohabitation. Et c'était ça qui était important. Donc, les religions saintes sont excellentes, il n'y a pas de problème. Le problème, c'est nous, les hommes. C'est la politique. C'est les intérêts égoïstes. Et aujourd'hui, c'est beaucoup plus dangereux parce qu'ils sont doublés par les réseaux sociaux qu'on ne peut pas critiquer, qui sont partie de la culture actuelle. Et donc, c'est au leadership politique de se montrer responsable et de trouver des solutions. L'exemple du Burundi, je l'ai bien connu, les deux principaux religieux qui n'appartenaient pas au même groupe ethnique ont été responsables et co-médiateurs. J'étais avec eux nuit et jour. Et ça nous a permis d'avoir un langage clair, pédagogique et ferme.
Et ils ont contribué à la création d'une organisation de la société civile, la Ligue des droits de l'homme, ITK, les deux religieux dont vous venez de parler. Et dans le cas qui nous intéresse, c'est le Niger. Comment, justement, les chefs religieux peuvent-ils influencer les dynamiques politiques et sociales dans le pays, en particulier dans le contexte actuel qui est explosif?
Le contexte est absolument explosif, comme vous le dites. Et les réseaux sociaux, la facilité de communication, la rend toujours explosif. Donc, les hommes religieux et en particulier ceux du Nigeria et du Niger qui parlent la même langue, qui ont le même background culturel, quelle que soit leur religion, ils parlent la même langue moderne, l'anglais et le français ou l'arabe ou la haoussa ou fulani, ils peuvent faire quelque chose en rappelant les leaders politiques à la tolérance et de regarder l'avenir. Rien n'est permanent dans la vie. Un jour pour nous, un jour contre nous. Toutes les religions le disent à peu près. Un jour pour nous et un jour contre nous. Donc, méfiez-vous, entendez-vous. Et je pense qu'ils peuvent jouer ce rôle. Mais il faut que les politiques, les hommes d'affaires qui sont les principales victimes, les syndicats, les soutiennent et que la négociation soit dans un but précis, une durée déterminée, sinon les négociations deviennent, comme en Somalie, un business. Et c'est ça qu'il faut éviter.
Jean-Claude, sur cette situation du Niger.
Je voudrais d'abord dire que les interventions qu'on a lues ici ou là, hein, parce qu'il n'y a pas que les évêques du Togo qui se sont exprimés sur la question du Niger. Je crois qu'il y a pratiquement tous les évêques francophones et anglophones de l'Afrique de l'Ouest qui se sont prononcés aussi. Et puis je crois que d'autres pays vont suivre. Et ça, c'est vraiment inédit parce qu'on n'avait jamais connu ça auparavant. Même quand la Libye a été détruite, hein, et que le guide Kadhafi a été assassiné, quand la résidence présidentielle de Laurent Gbagbo a été bombardée par l'armée française, on n'avait pas vu une telle levée de boucliers de la part des hommes d'église, des religieux, vous voyez. Donc c'est vraiment inédit ce qui se passe là pour le Niger. Et c'est une bonne chose. Moi j'applaudis des deux mains. Parce que c'est ça. C'est ça qu'on attend justement des religieux. Hein, lorsque, n'est-ce pas, nos villes, nos pays sont en feu, ils ne peuvent pas, n'est-ce pas, se contenter de prier. Il faut qu'ils mettent la main à la pâte. Il faut qu'ils parlent. Hein, il faut qu'ils se fassent entendre. Et donc, moi, je suis content que nos religieux aient pris, n'est-ce pas, la parole pour dire que le Niger n'a pas besoin de sanctions. Hein, sanctions, d'ailleurs, des sanctions qui sont inhumaines, hein, et qui sont, comment on dit ça, qui vont contre le bon sens. Parce que finalement, qui va souffrir de ça? C'est les pauvres populations. Des populations qui sont déjà appauvries par 60 ans, n'est-ce pas, d'exploitation, de pillage, hein, de la France, vous voyez. Donc, moi, je pense que les évêques, hein, les évêques, les imams, les pasteurs, il faut qu'ils continuent dans ce sens-là. Hein. Moi, je suis content qu'ils aient commencé avec le Niger, ils aient commencé à se faire entendre. Mais je veux dire que les prochaines fois, quand il y aura d'autres crises, il faut qu'ils se fassent entendre. Hein. Il ne faut pas qu'ils restent silencieux, il ne faut pas qu'ils aient content de prier et de jeûner. Ils doivent prendre la parole, ils doivent parler. Et donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, tout à l'heure, on a dit que les religieux intervenaient parce qu'ils sont attachés à la paix. Hein, la paix. Mais je crois qu'il faut aussi mentionner le fait que c'est des gens qui nous rappellent que la vie humaine est sacrée. Je crois que dans toutes les religions, on nous demande, n'est-ce pas, de ne pas tuer. On nous dit que la vie humaine appartient à Dieu. Et seul Dieu a le droit, n'est-ce pas, de l'enlever ou de la reprendre. Vous voyez ? Or, ce que les gens s'apprêtaient à faire, la CEDEAO s'apprêtait à faire au Niger, c'est quoi ? C'est des tueries, c'est des massacres. C'est pour tuer des innocents. Vous voyez ? Donc, je crois que les religieux sont là pour nous rappeler que la vie humaine est sacrée.
Ahmedou Ould Abdallah, il nous reste quelques secondes. Votre réaction par rapport au propos de M. Jean-Claude ? 30 secondes, 20 secondes.
Oui, non, mais je suis d'accord que les religieux sont très importants.
C'est la fin de cette édition de Dialogue des religieux. Malheureusement, le temps vient de prendre fin. On parlait de l'implication des chefs religieux nigériens et des évêques dans le contexte du coup d'État au Niger qui met en lumière leur rôle crucial en tant qu'acteur de médiation et de plaidoyer pour apaiser les tensions. Eric Manelakiza vous remercie et vous dit au revoir. À la prochaine.
Vous étiez à l'écoute d'un programme en rediffusion.
rediffusion sur VOA Afrique.